heures.
Bonjour, c'est le deuxième lundi du mois et c'est votre rendez-vous avec le Foutu Mélange, un magazine consacré à Léo Ferré, à son œuvre polymorphe, comme aurait dit Robert, mon invité ici présent. Bonjour Robert. Bonjour.
Bonjour, je suis content d'être de nouveau sur Radio Campus pour présenter Léo Ferré, parce que Léo Ferré, c'est un peu ma passion. J'étais un ami proche de Léo Ferré, et j'avais à la fois une très grande affection et puis une admiration sans borne pour ce qu'il a pu écrire, hein, puisque Léo Ferré n'était pas uniquement un auteur de chansons, c'était vraiment un très très grand écrivain de la seconde partie du siècle dernier. Et d'ailleurs, André Breton, qui a été proche de Léo Ferré durant toute une période, a écrit dans un article que Léo Ferré était un des grands poètes de ce temps, donc un des grands poètes de la seconde partie du XXe siècle.
La dernière fois, on est resté sur... on a fait déjà une intro assez longue, il y a 4 émissions derrière, sur le thème de la mer en général. Et aujourd'hui, je suppose qu'on va présenter, que tu vas nous présenter, l'œuvre, la mémoire et la mer.
Absolument. Donc, la mémoire et la mer, c'est un très long poème, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour un peu prolonger ce que j'ai dit au début, je vais peut-être présenter Léo Ferré, poète, grand écrivain, comme je disais tout à l'heure, qui a écrit de très longs textes. Et je vais en donner, en dehors de la mémoire et la mer, 2 exemples. Le premier exemple, c'est un texte inédit qui s'appelle Angelo, et qu'il faudrait publier un jour. C'est un long texte lyrique en 6 parties qui met en scène 2 personnages, Angelo et Marie-Jeanne. Ces 6 parties devaient constituer les 6 séquences d'un projet de télévision jamais réalisé qui devait être intitulé « La télé après la télé », et je vous indique le scénario. Après la fin des émissions, l'écran se rallumait et Marie-Jeanne, belle jeune femme mystérieuse, apparaissait au spectateur. Et par conséquent, il y avait un dialogue qui s'établissait entre Angelo et Marie-Jeanne. Donc, évidemment, projet totalement original, puisque Léo Ferré a eu des projets comme ça, de très nombreux poèmes, très originaux, qui souvent n'ont pas vu le jour.
Ce texte-là, est-ce que c'est comme pour d'autres textes, il a mis quelques temps, peut-être même quelques années, pour l'écrire ou...
Ben, il a écrit dans les années 1980, puisque... À partir de cette époque, il va écrire de très longs textes. Oui, c'est relativement récent.
C'est récent.
Et c'est écrit sous forme de dialogue, puisqu'il y a toute une partie de l'œuvre de Léo Ferré qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler l'écriture théâtrale. Ne serait-ce que dans ces longs textes qui étaient très originaux à l'époque, notamment Le Chien ou encore Basta, ou encore Il n'y a plus rien, qui sont des textes qui disaient sur un fond musical, un peu comme les rappeurs à l'heure actuelle. Et Léo Ferré a été une sorte de précurseur des rappeurs. Alors je peux raconter une anecdote tout à fait amusante. Dans les années 90, Léo Ferré était dans le Nord et il a enregistré une émission sur Jean-Roger Cossimon qui venait de mourir à France 3. Et moi j'étais avec lui. Et on sort du studio d'enregistrement et il y avait dans un autre studio des rappeurs qui étaient en train d'enregistrer une émission. Il y a un rappeur qui sort, qui vient trouver Léo Ferré, qui dit « Ah, monsieur Ferré, je suis content de vous voir. Est-ce que vous voulez faire partie de notre émission ?» Et donc, il est rentré avec les rappeurs. Et les rappeurs, en effet, ont reconnu, ont dit que, finalement, le précurseur du rap, c'était un peu Léo Ferré. Puisque des textes comme « Le chien » qui disait de façon rythmée sur un fond musical, bon, ça s'apparentait tout à fait au rap.
Toi-même, tu as fait des ateliers, peut-être un ou deux, pas beaucoup, à Aulnoye-Aymeri, au temps du centre Léo Ferré, avec des jeunes qui aimaient le rap. Et...
Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui sont influencés par Léo Ferré. Hein. Ils sont encore influencés par Léo Ferré, malgré la distance. Mais malheureusement, évidemment, le souvenir de Léo Ferré s'estompe petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'il est mort en 1993. et que ça correspond, évidemment, les fans de Léo Ferré, bon, ce sont des gens qui sont assez âgés à l'heure actuelle, mais il y a tout un renouveau. Récemment, je faisais une intervention à Saint-Omer sur Léo Ferré, justement, et après cette intervention, il y a un jeune qui devait avoir 18 ans, qui est venu me trouver et qui connaissait parfaitement l'œuvre de Léo Ferré. Et toujours, en ce qui concerne cette anecdote de l'intervention à Saint-Omer, il se trouve que Saint-Omer a accueilli des réfugiés ukrainiens et les a parfaitement intégrés dans la population. Et il y avait notamment une délégation ukrainienne qui assistait à mon intervention. Et il y avait au premier rang une petite fille ukrainienne, c'était extraordinaire, parce que quand je faisais passer les enregistrements de Léo Ferré, elle rythmait le chant de Léo Ferré. Et après, elle est venue me trouver avec sa mère, et ça a été vraiment extrêmement intéressant, parce que sa mère était en admiration, ne connaissait pas Léo Ferré, elle me disait c'est extraordinaire ce que fait Léo Ferré. Et là, il y a eu toute une conversation qui s'est engagée, et ce qui était un peu surprenant, c'est que la mère parlait très mal français, alors que la petite fille qui était scolarisée parlait déjà très bien français. Donc il se trouve que dans cette conversation, c'était la petite fille qui servait d'interprète entre sa mère et moi. Donc, alors je vais donner un autre exemple de ces très longs textes que compose Léo Ferré, et là encore avec la manière originale où il les intègre. C'est un texte qui s'appelle « Outre-mec ». Alors « Outre-mec », ça signifie évidemment « au-delà de l'homme ». Et c'est un peu inspiré par Nietzsche. Léo Ferré avait une très grande admiration pour Nietzsche, et c'est un peu le surhomme hein, de Nietzsche. Et c'est un long poème qui a été écrit en 1984, en une semaine, là, plusieurs centaines de vers, pour figurer dans un album de photos d'Hubert Grooteklaas, qui était un photographe très proche de Léo Ferré, qui notamment a fait beaucoup de photos de scènes de Léo Ferré. Et il va être publié seulement en 1995 dans « Avec le temps ». Et c'est un peu surprenant, parce que cette publication, c'est donc une publication qui est faite par l'un des plus proches conseillers de Sarkozy à l'époque. Son nom m'échappe, mais peut-être le redire tout à l'heure, qui était extrêmement à droite, hein, vraiment quelqu'un d'extrême droite, qui est mort depuis, qui était un admirateur de Léo Ferré, et qui, par conséquent, a publié ce poème « Métamec » avec les photos accompagnatrices de Hubert Grooteklaas. Alors la composition de « Outre-mec » est tout à fait particulière, puisque le poème comporte 20 quatrains, dont les vers constituent les premiers éléments des 79 quatrains des variations. Hein, c'est-à-dire, il y a donc 20 quatrains qu'il appelle des quatrains de thème, et puis ensuite c'est repris par 79 quatrains de variations. C'est-à-dire, c'est un peu composé comme de la musique symphonique, puisque Léo Ferré était également un grand compositeur symphonique, avec le thème et les variations. Et seul le dernier vers du dernier quatrain du thème ne donne pas naissance à un nouveau quatrain. Alors, je donne un exemple de ça, vous allez voir que c'est tout à fait surprenant. Alors, si on regarde le tout début de ce poème de Métamec, donc je lis la première strophe. Ces oiseaux que tu portes en toi depuis septembre, cette pâleur jalouse où tu mets tes pensées, ce ventre qui te prend comme un enfant de cendre, ces souvenirs gâchés qui t'ont pris tes années. Donc il va prendre chaque vers de ce quatrain pour refaire un nouveau quatrain. Alors le premier vers, ces oiseaux que tu portes en toi depuis septembre, alors que la forêt d'automne s'ébrouait, s'en va dans la mémoire incrédule des cendres, et toi tu t'en allais dormir où tu pouvais. Le deuxième vers, cette pâleur jalouse où tu mets tes pensées, s'en va dans la mémoire incrédule des cendres, et toi tu t'en allais dormir où tu pouvais. Troisième vers, ce ventre qui te prend comme un enfant de cendre, comme une cendre amie saupoudre le tombeau, où meurt et puis renaît ta maman de septembre, la même que l'oiseau qui te voyait de haut. Et le quatrième vers donc, de la première strophe du thème, ces souvenirs gâchés qui t'ont pris tes années, en fuite dans l'oubli comme un avion de rêve qui passe et puis repasse et qui veut s'en aller et qui ne part jamais, qui jamais ne se lève. Donc c'est évidemment un poème absolument magnifique, hein, je veux dire que c'est... Breton d'ailleurs comparait Léo Ferré à Baudelaire, Verlaine et Apollinaire dans un article. Il écrit que la poésie de Léo Ferré est au niveau de ces grands poètes du 19e siècle. Alors, en ce qui concerne la mémoire et la mer, donc c'est là, il y a beaucoup d'autres exemples, j'en ai donné deux en dehors de la mémoire et la mer. La mémoire et la mer, c'est l'un de ces très longs textes. Hein. Il est constitué de 440 octosyllabes, avec ce qu'on appelle des rimes alternées, hein, c'est-à-dire le premier vers rime avec le troisième vers et le deuxième avec le quatrième vers. Donc on a 55 strophes de 8 vers. Et là encore, on voit comment Léo Ferré ne cesse de modifier ses textes, puisque la composition de ce long poème va varier selon les éditions. C'est-à-dire, tantôt c'est réparti en strophes de 4 vers, tantôt en strophes de 8 vers, tantôt en strophe de 16 vers. Et le titre de ce poème va varier au fil des temps, puisque successivement, Léo Ferré va appeler ce poème « La mémoire et la mer », puis « Guéclin », du nom de l'île qu'il achète dans les années 60. C'est d'ailleurs dans cette île qu'il va commencer à écrire ce long poème. Et puis enfin, le troisième titre, « Les chants de la fureur ». C'est évidemment le titre le plus intéressant, le plus marquant. Et on va voir que tout au cours de sa carrière, Léo Ferré va tirer des chansons de ce très long poème. C'est-à-dire qu'il va d'abord être publié en tant que texte poétique, et puis ensuite il va en tirer des chansons. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est une façon d'écrire les chansons de Léo Ferré tout à fait particulière, parce que généralement, le texte et musique sont écrits en même temps. Hein, par exemple, si on regarde des chansons de Brel ou les chansons de Brassens, il écrit à la fois la musique et le texte en même temps. Or, Léo Ferré ne procède pas du tout de la manière suivante, c'est-à-dire il publie très souvent ce qui va devenir des chansons comme des poèmes dans des recueils poétiques, et puis ensuite il va reprendre ces poèmes et les mettre en musique. De telle manière qu'il les met en musique un peu comme il peut mettre en musique des poètes. Hein. Puisque Léo Ferré a toute une œuvre de mélodiste, hein, où il met en musique Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Aragon, etc. Donc, il y a toujours la distance entre l'écriture du texte et l'écriture de la musique. Alors, pas toujours. Hein. Il y a des chansons, par exemple, une chanson comme Paris Canaille, comme Le piano du pauvre, il écrit la musique et le texte en même temps. Mais très souvent, comme dans le cas de La mémoire et la mer, il y a un décalage entre l'écriture du texte et la mise en musique. Mais et donc, la particularité de La mémoire et la mer, c'est que ça va être un réceptacle dans lequel Léo Ferré va puiser tout au long de sa carrière pour écrire des chansons. Il écrit en effet 7 chansons à partir de La mémoire et la mer. La première, c'est La mémoire et la mer. Alors évidemment, pour le grand public, quand on dit La mémoire et la mer, les gens ont en tête la chanson et pas le long poème. Alors, La mémoire et la mer, c'est enregistré chez Barclay en 70. C'est-à-dire pratiquement 10 ans avant la composition du grand texte. Deuxième chanson, c'est Des mots, M-O-T-S, qu'il enregistre chez Barclay en 79. Et vous avez ensuite 3 chansons, FLB, La mer noire, et Géométriquement tiens, qu'il enregistre chez RCA en 1980. Et enfin, les 2 dernières chansons, Christy et La Marge, qui sont enregistrées, mises en musique, RCA également, en 1982. Donc, vous voyez, sur 10 ans, de 70 à 82, il va tirer 7 chansons de ce grand texte, La mémoire et la mer. Alors, il le fait de façon tout à fait singulière, parce que, évidemment, la facilité aurait été de tronçonner, je puis dire, c'est-à-dire de couper le texte de La mémoire et la mer en 7 parties, puis de faire 7 chansons. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait, j'aurai l'occasion de voir, on aura l'occasion de le voir lors de l'écoute et de l'analyse de ces différentes chansons. Il va prendre une strophe à un endroit, et puis une strophe à un autre endroit. Je donne un exemple tout de suite, parce que ça permet de voir comment les choses fonctionnent. Par exemple, en ce qui concerne la chanson « La mémoire et la mer », la strophe 1 de la chanson reprend la seconde moitié de la strophe 35 du grand texte, puis la strophe 36, puis la première moitié de la strophe 37 du grand texte. En ce qui concerne la strophe 2 de La mémoire et la mer, ça reprend la deuxième moitié de la strophe 37 d'origine, la première moitié de la strophe 38, la première moitié de la strophe 39 et la deuxième moitié de la strophe 38. Comment les choses fonctionnent ? Et puis enfin, en ce qui concerne la strophe 3, pas enfin parce qu'il y en a 5, la strophe 3 reprend la deuxième moitié de la strophe 37, la deuxième moitié de la strophe 44 et l'ensemble de la strophe 40. En ce qui concerne la strophe 4, elle reprend la première moitié de la strophe 13, la seconde moitié de la strophe 30 et la totalité de la strophe 41. Et enfin, la dernière strophe va reprendre la strophe 7 et la strophe 8 dans son intégralité de la composition d'origine. Vous voyez comment ? Alors évidemment, à partir de là, il va procéder à une espèce de travaux de couture presque, c'est-à-dire qu'il va réussir à reconstituer des textes complètement autonomes à partir de ce grand texte. Et puis, par ailleurs, dans les chansons, il va parfois rajouter des strophes qui ne figuraient pas dans le long texte « La mémoire et la mer ». Par exemple, dans la chanson « La mémoire et la mer », vous avez 4 vers qui sont réinventés, en quelque sorte, quand il fait la mise en musique. Ces 4 vers, c'est « Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure ». Donc, vous voyez évidemment le travail que Léo Ferré mène, et c'est peut-être la première fois que je vais le faire, et que ça a été fait. Je vais maintenant consacrer un temps assez important à faire entendre les 7 chansons tirées de ce long texte « La mémoire et la mer », en vous montrant comment il les découpe, quand il y a des rajouts, parce que parfois il y a des choses tout à fait surprenantes qui interviennent quand il reprend les textes en question. Donc on va d'abord écouter la mémoire et la mer, et puis ensuite je vais l'analyser très, très rapidement.
La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, folles qui gueulent dans le désert, des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse. Revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Parfum rare des salants, dans le poivre-feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
vous écoutez toujours Radio Campus sur le 106,6. Vous pouvez aussi nous retrouver sur campuslille.com. Cette émission, vous pouvez la télécharger, la réécouter, l'enregistrer, la passer à un copain qui habite loin ou quelque chose comme ça. Envoyez l'adresse, c'est sur campuslille.com, le deuxième lundi du mois. Le Foutu Mélange, magazine consacré à Lio Ferré. Robert,
Voilà. Alors donc, déjà, il y a quelques remarques à faire sur cette première chanson. D'abord, c'est la longueur de la chanson. Hein, de Léo Ferré, à cette époque-là, n'applique plus du tout le format normal de la chanson, qui est 3 minutes. Hein, ça dépasse très largement. On doit avoir 5 minutes au moins en ce qui concerne.
6 minutes.
C'est le double du format normal. Alors, autre remarque, évidemment, c'est la qualité musicale. Hein, cette musique symphonique extrêmement belle qui accompagne le chant. Et Léo Ferré compose ses chansons comme de la musique classique, dans le sens qu'il utilise ce qu'on appelle le contrepoint. Si on regarde comment ça fonctionne, on s'aperçoit que la mélodie de la voix est complètement différente de la mélodie de la musique, de l'accompagnement musical. Et que par ailleurs, comme il avait l'habitude, il y a des plages musicales qui parfois interfèrent à l'intérieur du texte. C'est-à-dire entre chaque strophe, on a un petit moment musical où Léo Ferré ne chante pas. Comme si il s'agissait de remplacer, hein, puisque dans ces textes-là, il n'y a pas de refrain, comme si le refrain du texte était remplacé par le refrain musical. Alors, autre remarque l'on peut faire, c'est en ce qui concerne la mélodie de la voix. Chaque strophe se décompose de la manière suivante. Il y a d'abord une montée de la voix, avec un léger ressaut, puis une descente de la voix, et chaque strophe s'achève avec une remontée de la voix. Hein, c'est-à-dire comme si il y avait, en ce qui concerne le constat de la vie, une espèce de descente aux enfers, comme ça, progressive, mais quand même avec une lueur d'espoir qui correspond à cette remontée de la voix qui achève l'interprétation. Et puis toujours, en ce qui concerne la voix de Léo Ferré, on peut noter que Léo Ferré a une articulation extrêmement précise, ses paroles sont extrêmement compréhensibles, et il a une vraie voix, je veux dire. Hein. Et cette voix s'est perfectionnée tout au cours de sa carrière. Au début, il a une voix assez faible, et à la fin de sa vie, il avait pris une voix extrêmement forte, extrêmement puissante, et extrêmement modulée. Alors, en ce qui concerne le texte lui-même, c'est la première fois que je le ferai, mais ça permet d'être plus synthétique. Je vais vous lire un texte que j'avais écrit justement à propos de la mémoire et la mer. Je le dis de façon in extenso. La mémoire et la mer, alors ça, il s'agit de la chanson évidemment. La mémoire et la mer, malgré la complexité et la difficulté du texte, est un des grands succès de Léo Ferré. C'est que chacun peut se reconnaître dans les notations sensibles, impressionniste de ce poème porteur de significations multiples. Et pourtant, comme pour toute grande œuvre, cette universalité part d'une expérience précise de son auteur. Léo Ferré y évoque en effet sa vie dans l'île bretonne de Guéclin qu'il achète en 1960. Tout y est imprégné de la mer qui impose au poème le mouvement de va-et-vient de ses marées. Les rappels des faits précis abondent. Par exemple, le chien de mer que nous libérions sur parole transcrit un épisode de pêche, ramenant dans son filet, le trémail de juillet, un poisson qu'il ne connaissait pas. Léo Ferré en demande le nom à un ami, et lorsqu'il apprend que c'est un chien de mer, décide de le relâcher dans l'idée qu'il n'est pas possible de traiter ainsi un chien. À partir de ces données, Léo Ferré va exprimer toute une vision du monde dans laquelle se mêlent la mort et la vie, la mort et l'amour, la mère et la femme, la mère et le spectacle. L'utilisation de l'octosyllabe et des rimes alternées rend parfaitement compte de l'inéluctabilité du destin que souligne par ailleurs une mélodie ample et sombre. Léo Ferré va enregistrer d'abord « La mémoire et la mer » en 1970, cet enregistrement-là, chez Barclay, avec l'orchestre symphonique de Jean-Michel Defaille, puis en donne plusieurs versions en s'accompagnant au piano et en mettant ainsi en évidence la pureté et le pathétique de la ligne mélodique. L'élaboration du texte est significatif de son mode d'écriture, Il a extrait cette chanson d'un très long texte de 440 vers, d'où il a tiré six autres chansons, en les recomposant, en en faisant des éléments autonomes, à partir de vers choisis apparemment sans ordre, comme au gré du hasard, dans ce vaste ensemble. Par ailleurs, il n'a cessé de remanier et d'amplifier ce long poème de 1960 jusqu'aux années 1970, en lui donnant plusieurs titres, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, deuxième texte, mise en musique, hein, c'est donc des mots. Je vais d'abord vous commenter avant de le faire entendre. Donc, c'est un enregistrement de Barclay également, 1979. Et c'est un texte qui est constitué de 5 strophes de 16 vers. Et là encore, mais je ne vais pas le faire pour tous les textes, pour toutes les chansons, parce que ce serait un peu fastidieux, mais je vais donner un deuxième exemple des strophes qu'il va utiliser pour la mise en musique de ce texte. Alors, tout d'abord, il va prendre la première moitié de la strophe 35. Ensuite, il ajoute 4 vers qui ne figurent pas dans le long texte initial. Je vous indique ces vers. Ta robe prise sur le vif dans la collection des comètes traînera dans mon objectif quand les termites seront jettes. Ensuite, il va prendre la strophe 36 et avec une modification, hein, parce qu'il il modifie également le texte, puisque dans le texte initial, il y a « avec la Suisse entre leurs dents » et il remplace « avec le quartz entre leurs dents ».
On n'est pas loin de la Suisse.
Alors, évidemment, avec le quartz, ça évoque la montre, obligatoirement. Hein. Donc, on voit comment il y a une évolution des choses. Non, mais je veux dire, la façon dont écrit Léo Ferré est prodigieuse. C'est une inventivité extrême. Donc, on se penche de très près sur ces textes, c'est surprenant. Alors, ensuite, il va rajouter un refrain qui n'existe pas dans le set d'origine. Le refrain, c'est des mots qui t'envahissent comme la lumière, des mots qui montent de la terre, comme des violons tristes, sous un avion fidèle, des mots. Et ça va revenir régulièrement, ce refrain, mais avec des modifications, puisque dans le deuxième refrain, qui montent de la terre comme des violons tristes, sous un avion fidèle, va devenir qui montent du silence, comme des violons tristes sous une main fidèle. Et en ce qui concerne le troisième refrain, là encore, il va avoir une modification. Ça va devenir des mots qui t'envahiraient comme la folie, des mots qui montent de la vie, comme la raison triste, dans ta tête fidèle, des mots. Et autre modification dans le refrain suivant, des mots qui t'envahirait comme la détresse, des mots qui montent de l'ivresse, comme tes choses tristes, sous le destin fidèle, des mots. Et enfin, le dernier refrain, des mots qui t'envahirait comme la lumière, des mots qui montent de la terre, comme des oiseaux tristes sous un avion fidèle. Vous voyez, évidemment, l'inventivité qui consiste à partir d'un schéma identique de refrain de changer les termes. Hein, puisque si on regarde dans les détails, on s'aperçoit que qui t'envahirait comme la lumière qui devient qui t'envahirait comme mon absence, puis qui t'envahirait comme la détresse, et puis de nouveau, qui t'envahirait comme la lumière. Et il va y avoir une rupture à la fin, hein, puisque ça va se terminer sur cette conjugaison dérisoire du verbe aimer, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, avec des points d'interrogation dans le texte, et après un petit silence, il va y avoir des mots, hein, c'est-à-dire cette idée que l'amour, ce ne sont que des mots et rien d'autre. Alors, en ce qui concerne la composition musicale, comme c'est souvent le cas chez Léo Ferré, on va avoir deux lignes mélodiques. D'abord, en ce qui concerne les strophes elles-mêmes, qui font donc 16 vers, ça va être dit comme une forme, comme un récitatif. Je ne suis qu'un ami de chair, qu'un amas de chair, un galactique d'étale dans les eaux du Montandère, quand ma psycho se fait la manne, etc. Et donc, c'est entre le dit et le chanter. Alors qu'au contraire, le refrain des mots qui t'envahiraient comme la lumière sont chantés de façon extrêmement lyrique et extrêmement mélodique. Donc on va voir dans l'interprétation ce contraste entre la partie récitative de 16 vers et la partie refrain qui est beaucoup plus lyrique. Et dans beaucoup de ses chansons, Léo Ferré procède de cette manière-là. Et on constatera de nouveau qu'il y a l'orchestre, une orchestre symphonique, qui accompagne Léo Ferré, et avec le même procédé que précédemment, c'est-à-dire cet orchestre symphonique qui va occuper une place un peu plus importante entre les interstices, si je puis dire, du texte, et l'orchestre symphonique qui va terminer par ce qu'on appelle une coda dans l'écriture symphonique, par un temps très fort qui va achever le dernier mot des mots qui termine le texte. Je crois que c'est certainement des chansons des plus géniales qu'a écrit Léo Ferré. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre pur, intégral, que cette chanson des mots que l'on va donc entendre.
Je ne suis qu'un amas de chair, un galaxique qui détale dans les hôtels du mont en l'air, quand ma psycho se fait la malle. Ta robe prise sur le vif dans la collection des comètes traînera dans mon objectif quand les termites seront jets. Je vais tout à l'heure au Fauchant des moutons d'iceberg solaire avec le quartz entre leurs dents à brouter des idées lumières et des chevaux les appelant de leurs pampas et des coursives que j'invente à leur naseau blanc comme le sperme de la rive. Arrive marine d'extase, quand je m'arrête, tu me prends comme je te prends dans ta case. Négresse bleue, blouse d'horizon, et les poissons que tu dégorges depuis ton ventre et tes façons, quand ton sexo joue dans ta gorge. Dans cette plaie comme d'un trou, grouillant de cris comme la vague, quand les goélands sont jaloux de l'architecte où s'extravague. Des maçons aux dents de velours et le ciment de leur salive, à te cimenter pour l'amour, ton cul calculant la dérive. Des mots qui t'envahiraient comme mon absence, des mots qui montent du silence comme des violons tristes sous une main fidèle. Des mots Mes souvenirs s'en vont par deux, moi le terrien du Pacifique, je suis métisse de mes aveux, je suis le silence en musique. Le parfum des mondes perdus, le sourire de la comète, sous l'empire de ta vertu, quand mes soldats te font la fête. Muselle-moi, si tu le peux, toi, dans ton X ou le vacarme, sonne le glas dans le milieu, moi planté là, avec mon arme. Tu es de tous les continents, tu m'arrives comme la route où s'exténue 10 000 amants, quand la pluie à ton cul s'égoutte. Qu'ai-je donc à lyriser cette miction qui me lamente? Dans ton lit, j'allais te braquer, ta culotte sentait la menthe. Et je remontais jusqu'au bord de ton goémon en soupente, et mes yeux te prenaient alors ce blanc d'écume de l'attente. Sous le destin fidèle.
MC2, MC2, aime-moi donc ta parallèle avec la mienne si tu veux, s'en trianglera sous mes ailes. Humant un peu par le dessous, je deviendrai ton olfac mouette, mon bec plongeant dans ton égout, quand Dieu se vide de ta tête. Les vagues, jamais ne viendront repeupler le sable où je me traîne désormais, attendant la marée du diable. Ce copain qui nous tient la main devant la mer crépusculaire, depuis que mon cœur dans le tien mêle ton astre à ma lumière. T'envahirait comme la lumière des mots qui montent de la terre. Comme des oiseaux tristes sous un avion fidèle, je t'aime.
Écoutez toujours le Foutu Mélange. Toutes ces chansons, vous pouvez les trouver en réécoutant l'émission avec les commentaires, avec les explications de mon ami Robert, ici présent. Campuslille.com, elles sont disponibles pendant 8 semaines. Donc vous pouvez les télécharger, les réécouter, les offrir, faire un CD à un copain qui est loin. Robert. Un commentaire sur ce texte.
Oui, donc je voudrais rajouter quand même quelque chose, parce que j'avais pas signalé. Bon, c'est un texte extrêmement érotique, hein, d'image érotique, comme toutes ces grandes chansons, d'ailleurs. Je veux dire que ça correspond à toute une période, mais je veux dire, c'est un érotisme. On a souvent comparé l'érotisme de Ferré avec celui de Gainsbourg. Je crois que ça n'a rien à voir, celui de Gainsbourg. Et c'est quand même des images... qui dépassent l'érotisme, qui sont presque pornographiques chez Gainsbourg. Ce n'est pas du tout le cas chez Léo Ferré. Léo Ferré, c'est toujours un érotisme poétique, mais il y a plein de références en cela. Et puis, évidemment, on peut, à l'écoute, admirer la puissance de la voix de Léo Ferré, hein, notamment. Et puis, si on se tient dans les premières strophes, je n'avais pas signalé cette montée chromatique à très haut niveau qui se termine par un abaissement de la voix, puis par une remontée très forte, hein, qui est accompagnée du chœur, hein, puisqu'il y a le chœur qui s'ajoute à l'orchestre proprement dit, qui donne une dimension supplémentaire symphonique à cette interprétation. Alors encore, c'est un texte très long, parce que ça doit faire pas moins de 10 minutes. Hein, moins,
c'est 10 minutes.
10 minutes, tout ça. Ça doit faire. Donc ça, c'est ce que j'appelle des chansons symphoniques, je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'équivalent nulle part. Hein, je veux dire, on peut considérer que Léo Ferré a vraiment inventé un genre nouveau. Moi, que j'appelle chansons symphoniques, hein, pour bien montrer qu'il y a à la fois... une facture de la chanson, mais également un accompagnement de grand orchestre. Alors, la mise en musique suivante, c'est FLB. Donc, ça date de RCA 1980. Et FLB, c'est le Front de Libération de la Bretagne. C'était donc un mouvement, en effet, libération assez violent, puisqu'il y a eu un certain nombre d'attentats. Or, Léo Ferré avait un ami proche, c'était Lossu, qui était un marin, membre anarchiste, avec lequel, notamment, il pêchait, hein, dans cette anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Et par conséquent, il s'agit d'un texte qui met en avant, hein, de cette dimension insurrectionnelle du FLB. Il ne faut pas oublier, évidemment, que Léo Ferré était un chanteur engagé, un artiste engagé qui soutenait toutes les causes révolutionnaires. Alors, c'est donc le Front de Libération de la Bretagne qui donne le titre à cette chanson. Et on va avoir donc 7 strophes de 8 vers chacun, chaque strophe, hein, avec là encore des images érotiques. Des références aussi, il y a souvent des références religieuses chez Léo Ferré. On peut dire que Léo Ferré a été scolarisé dans une institution religieuse et que par conséquent, il a été enfant de chœur en particulier. Il a participé à la chorale de cet établissement. C'était l'établissement des frères des écoles chrétiennes qui était en Italie, à Bordighera. Et il y a évidemment une quelque sorte une récupération de la religion, parfois de façon que les pratiquants pourraient considérer comme sacrilège. Je vous donne un exemple, une strophe. « Mon Dieu ne fait pas de détails, il ne prête qu'à ses lumières. Au renouvellement du bail, nous lui parlerons de son père, du fils de l'homme et du destin, quand nous descendrons sur la grève et que dans la mer de Satin luiront les lèvres de nos rêves. » Là encore, évidemment, c'est une poésie extrêmement élaborée. Et il chante cette chanson de façon extrêmement rythmée, là encore, sur une musique symphonique. Et deux particularités que je voudrais souligner. Tout d'abord, la fin de cette chanson, c'est la dernière strophe du poème initial. Et avec une image saisissante, hein, puisque il représente la mer comme un livre qui se ferme. Alors évidemment, ce livre qui se ferme, c'est un peu le livre de la vie, hein. Cette obsession de la mort que véhicule très souvent Léo Ferré. Alors je vous lis cette dernière strophe, parce qu'elle est sublime en ce qui concerne son écriture. « Et ces maisons gantées de vent, avec leurs fichus de tempête, quand la vague leur ressemblant met du champagne sur nos têtes, c'est toi, leur tuile, et nous et toi, cette raison de nous survivre, entend le bruit qui vient d'en bas, c'est la mer qui ferme son livre. » C'est magnifique comme ça. Et par ailleurs, alors, évidemment, curiosité, il se trouve que, je vous l'ai dit, Léo Ferré ne cesse de remanier ses textes. Or, il a eu une amitié extrêmement forte avec André Breton, je vous en avais parlé tout à l'heure. Et il y a une rupture, comme on avait l'habitude, Breton, en 1956. Et dans le poème initial, Léo Ferré faisait référence à plusieurs reprises à André Breton et à Benjamin Perret. Et quand il met en musique, il va remplacer systématiquement les passages où il y a Breton et Benjamin Perret par d'autres passages. Alors, je vais vous lire ces variantes, parce que c'est assez surprenant. Par exemple, dans le texte initial, il y a « Nous irons sonner le Breton au 42 rue Fontaine. Réveille-toi, Dédé Façon. C'est Benjamin Perret, évidemment, qui se ramène. Oui, c'est Ferré, moi, le filou. » Il remplace dans la chanson par ces vers, « Nous irons sonner la raison, » c'est-à-dire Breton est remplacé par la raison, « à la colle de la Prétentaine, » au lieu de rue de Fontaine où habitait Breton, « Réveille-toi pour la saison, » qui remplace « Réveille-toi Dédé Façon, » c'est la folie qui se rappelle, qui remplace « Oui, c'est Perret, moi le filou, » c'est Benjamin qui se ramène, donc c'est remplacé par c'est la folie qui se ramène. Et puis, oui, c'est Perret, moi, le filou, c'est remplacé par c'est moi, le dingue et le filou. Oui, la modification qui est faite. Et puis, dans une autre strophe, à bientôt, Dédé, à bientôt. Ici, quelquefois, tu me manques. Viens, je serai ton mort gâteau. Je serai ton Perret de Planck. C'est remplacé par à bientôt, la raison, à bientôt. Ici, quelquefois, tu me manques. Viens, je serai ton fou gâteau. Je serai ta folie de Planck à la place de ton Perret de Planck.
L'émission d'aujourd'hui, on la termine avec le texte FLB.
Avec la mise en musique de FLB.
Avec la musique, voilà. La mise en musique de Léo Ferré. Et bien sûr, on se retrouve la prochaine fois. Ce sera toujours le deuxième lundi du mois. Sinon, vous avez campuslille.com. Salut à toutes, salut à tous.
L'eau, cette glace non posée, cet immeuble, cette mouvance, cette procédure mouillée nous fait prisonniers. Sa cadence nous dit de rester dans le clan à mâchonner les reverdures sous les neiges de ce printemps à faire au froid. Bonne mesure. Cette matière nous parlant, ce silence troué de forme, et ces marins nous appelant nos pas que le sable déforme. Cette cruelle exhalaison qui monte des nuits de l'enfance. Quand on respire à reculons une goulée de souvenance. Vers le vertige des suspects sous la question qui les hasarde, vers le monde démuselé de la bouche et des mains cafardes. Nous prierons Dieu quand Dieu priera et nous coucherons sa compagne. Sur nos grabats, d'où chantera la chanterelle de nos pannes. Mais Dieu ne fait pas le détail, il ne prête qu'à ses lumières. Nous lui parlerons de son père, du fils de l'homme et du destin quand nous descendrons sur la grève. Et que dans la mer de Satin luiront les lèvres. Sonner la raison à la colle de prétentaine. Réveille-toi pour la saison, c'est la folie qui se ramène. À bientôt, raison, à bientôt. Ici, quelquefois, tu si tu as
fermer tous nos bateaux, nous serions ta folie de planque. On danse ce soir sur le quai une rumba pas très cubaine. Ça n'est plus, messieurs, les Anglais qui tirent leur coup, capitaine.
Vous écoutez...